vous invite à ouvrir vos Bibles si vous en avez une ou à en ramasser une quelque part qui traîne, bien sûrement. C'est un passage assez long et je vais souvent vous y ramener. Donc c'est Jean 4 à partir du verset 1. Et je vais commencer par lire les 15 premiers versets. Jean 4, verset 1. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean, c'est-à-dire Jean-Baptiste. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et repartit pour la Galilée. Or, il fallait qu'il traverse la Samarie. Il arriva donc dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure, c'est-à-dire midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire !» Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une samaritaine ?» Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit-elle, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond, d'où aurais-tu donc cette eau vive ?» Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ? Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Donc, je propose de faire une pause ici, je lirai la deuxième partie tout à l'heure. On va encore chanter un chant d'aspiration pour nous préparer au message. C'est le 179. Le 179, ta parole Seigneur.
Heureux celui qui divine parole. Heureux celui qu'enseigne et que guide l'esprit. Heureux qui, loin du monde, incrédule et frivole, s'est assis humblement aux pieds de Jésus-Christ.
Je poursuis ma lecture à partir du verset 16 jusqu'au verset 30. La femme vient de demander à boire à Jésus. Et celui-ci dit, « Va, lui dit-il, appelle ton mari et reviens ici. » La femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, les Juifs, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » La femme lui dit, « Je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ, quand il sera venu, il nous annoncera tout. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Alors arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, « Que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle ?» La femme laissa donc sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir, un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Voilà, jusqu'ici notre lecture. Et c'est le moment pour les enfants d'aller à l'école du dimanche, si vous voulez, s'il en reste, qui veut y aller. D'accord. Je vous invite à prier avant le message. Seigneur grand Dieu, nous te remercions de ta parole. Nous l'avons chantée, ta parole est la vérité. Et nous avons tant besoin de la vérité dans nos vies. Alors nous te prions de nous parler ce matin. Seigneur, parle, tes serviteurs t'écoutent. Dans le nom de Jésus. Amen. C'est la 6e heure, c'est-à-dire midi, hein, je vous l'ai dit. Jésus se repose près de ce puits, il demande à boire à cette femme. Quoi de plus normal, il a soif après avoir marché probablement toute la matinée sous le soleil. Et lorsqu'on l'a bien vu, cette femme, elle hésite à lui donner à boire. Jésus lui propose autre chose. Il propose que ce soit lui qui lui donne à elle à boire. On voit au verset 10. Verset 10, Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. De l'eau vive. On dit que le corps humain est composé de quoi, 60-65% d'eau, hein, et qu'un adulte ne survivrait pas beaucoup plus de 3 jours sans boire. C'est des choses qu'on a tendance à oublier parce que nous, on a accès à l'eau potable très facilement, n'est-ce pas ? Mais pour une personne comme cette femme qui vivait sous un climat aride, près d'un désert, l'eau, c'est l'une des choses dont le corps humain a le plus besoin. C'est une composante essentielle du corps humain. Et du coup, on n'est pas surpris de voir que la femme samaritaine accepte la proposition de Jésus qui lui offre de l'eau. Même si elle ne comprend pas très bien ce qu'elle veut, parce qu'elle lui dit « mais t'as pas de seau, hein, comment tu vas faire pour me donner de l'eau ?» Et on voit très bien que Jésus et la samaritaine ne parlent pas du tout de la même chose au verset 13. Verset 13, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau, donc l'eau là qui est dans le puits, qui stagne, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Vous voyez ce qu'il est en train de lui dire ? Il est en train de lui dire, j'ai quelque chose à te donner qui est aussi fondamental et nécessaire sur le plan spirituel que l'eau peut l'être sur le plan physique. Quelque chose pour remplir ton vide intérieur, pour assouvir ton désir de plus, pour étancher ta soif spirituelle, pour apporter la satisfaction profonde à ton cœur. J'ai quelque chose pour toi. Et c'est quelque chose, il nous dit, c'est la vie abondante, la vie à l'infini, on pourrait dire, la vie éternelle. Et cette vie, Dieu nous dit que c'est un don, c'est un cadeau. On l'a vu au verset 10, c'est le don de Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on peut, qu'on doit obtenir. En fait, il n'y a rien qu'on puisse faire pour l'obtenir. C'est un don, on le reçoit. Mais ce que Dieu nous apprend dans ce passage ce matin, c'est qu'il y a deux choses qui caractérisent ceux qui reçoivent cette vie éternelle. Il y a deux éléments. Il nous faut admettre toute la vérité et adorer celui que Dieu a envoyé. D'accord ? Admettre et adorer. On va y revenir, mais j'aimerais d'abord que on entre, si vous voulez bien, ensemble dans l'histoire et qu'on rejoigne, si on veut, Jésus et ses disciples sur cette route poussiéreuse qu'ils ont pris. Ils sont à Sichar, en Samarie. Et la raison de leur présence là, elle nous est donnée au verset 1 et 2, n'est-ce pas ? Si vous regardez les versets 1 et 2, on apprend que Jésus doit quitter la Galilée, qui est la région au sud, la région de Jérusalem, où sa popularité grandissante commence à inquiéter les pharisiens, qui sont les dirigeants juifs. Et pour éviter des tumultes, une confrontation directe avec eux, Jésus décide de quitter la Galilée.
La
Judée au sud, pour rejoindre la Galilée au nord, qui est sa région d'origine. Donc c'est ça le voyage, du sud au nord du pays. Mais au verset 4, il nous est dit « Or, il fallait qu'il traverse la Samarie. » Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il fallait qu'il traverse la Samarie ? Pourquoi cette précision ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait deux chemins pour se rendre du sud au nord du pays. Le chemin le plus direct, c'est celui-là. Donc, traverser la Samarie en ligne droite. Et la seule alternative, ça aurait été, à partir de Jérusalem, de partir vers l'est pour traverser le Jourdain près de Jéricho et puis monter en direction du nord en territoire païen avant de retraverser le Jourdain près de la mer de Galilée. C'est ce qu'on appelle un détour, nous. Okay, un vrai détour. Mais les Juifs étaient prêts à faire ce détour. Lorsqu'ils venaient à Jérusalem pour fêter la Pâque chaque année, il n'était pas inhabituel pour eux de prendre ce chemin en descendant du nord du pays pour venir à Jérusalem au sud, de traverser le Jourdain, de descendre et de revenir à Jérusalem par Jéricho. En fait, lors de son dernier voyage à Jérusalem, avant sa crucifixion, c'est ce chemin-là que Jésus a pris. Donc, le détour, le plus long chemin. Alors, pourquoi est-ce qu'il fallait qu'il passe par la Samarie s'il aurait tout aussi bien pu prendre une autre route ? Pourquoi ? Voilà pourquoi. Plus de 700 ans avant cette rencontre entre Jésus et la Samaritaine, le peuple juif avait été emmené en exil à Babylone. Vous vous rappelez peut-être, c'était la stratégie politique des Babyloniens pour assurer leur contrôle. Ils redistribuaient un peu les cartes géopolitiques en déracinant des peuples entiers pour les installer ailleurs. Et lorsque le peuple juif avait été emmené en exil, d'autres peuples avaient pris leur place dans cette région autour de Samarie. Et ces peuples, ils ont commencé à avoir des mariages mixtes avec les juifs qui étaient restés sur place, ils ont commencé à mélanger la foi juive avec leurs idoles, à créer, on pourrait dire, une culture bâtarde dans cette région-là. Et aux yeux des juifs, c'était ça vraiment, les samaritains. Aux yeux des juifs, les samaritains, c'était Donc ces peuples qui se trouvaient dans cette région-là, c'était des imposteurs, si on veut bien, des faux frères qui avaient volé leur terre. Et quand on voit aujourd'hui la violence, par exemple, du conflit israélo-palestinien, hein, même dernièrement avec ces attaques au couteau, etc., quand on voit la haine qui peut résider entre les deux camps, ça nous permet un petit peu peut-être de comprendre la surprise de cette femme lorsque Jésus lui demande à boire, hein, au verset 9. Au verset 9, la femme samaritaine dit: Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une samaritaine? Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Et vous voyez, c'est pour ça en fait qu'il fallait que Jésus passe par là. Il fallait que Jésus passe par là parce que si lui ne l'avait pas fait, personne ne l'aurait fait. Personne ne l'aurait fait. Et il nous montre quelque chose que, il nous montre par là quelque chose que Jean, qui nous raconte cet incident, ne rate pas. Et il nous le rapporte au verset 42, tout à la fin de cet incident. Quelque chose qui sort de la bouche de ces villageois samaritains qui sont venus grâce au témoignage de cette femme. Et on voit qu'au verset 42, ces villageois samaritains disaient à la femme: Ce n'est plus à cause de tes dires que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. Du monde. Pas des Juifs seulement, mais du monde. Jésus dépasse les barrières culturelles et sociales. Lui, un Juif parmi les Samaritains ici. Mais en fait, l'ironie est encore beaucoup plus grande que ça. Parce que quelque temps après cette rencontre, Jésus va finalement se retrouver nez à nez avec ces pharisiens qu'il essaie à tout prix d'éviter ici. Est-ce que vous savez de quoi ces dirigeants juifs l'ont traité, Jésus? Ça nous est rapporté en Jean 8. Les dirigeants juifs ont traité Jésus de samaritain. Donc, un juif parmi les samaritains, samaritain pour les juifs, le sauveur du monde, étranger du monde. Qu'il a lui-même créé. C'est ça qu'on voit ici. Sauveur du monde, étranger du monde qu'il a lui-même créé. Et vous voyez ce que ça nous montre d'entrée, sans même qu'on soit vraiment encore entré dans les détails, on y arrive. Mais ça nous montre que, au propre, pour cette femme, comme au figuré, pour chacun d'entre nous, Dieu n'a pas pris le détour. Il n'a pas pris le détour qu'il aurait pu prendre. Mais il est venu tout droit sur cette terre, j'ai envie de dire peuplée, on peut le dire, je crois, d'imposteurs. Des faux frères que nous sommes tous, parce que d'une manière ou d'une autre, on a tous volé cette terre, on a tous pris en otage ce monde que Dieu a créé pour notre usage, en nous détournant de lui pour vivre comme on le veut, en nous créant toutes sortes de substituts pour remplir le vide intérieur qui est le nôtre. Mais comme vous savez, ces enfants qui jouent avec ce jeu où il faut faire rentrer des formes, vous essayez de mettre le triangle dans le rond, ça passe pas, le carré dans le triangle, etc. Aucun des substituts qu'on peut s'imaginer, que ce soit l'amour, le succès, l'approbation des autres, etc., la prospérité, le confort, aucun de ces substituts ne peut combler le vide en forme de Dieu que nous avons tous, hein, pour reprendre des paroles connues. Parce que c'est Dieu seul, révélé en Christ, qui peut combler le vide intérieur, le vide existentiel que nous avons tous. C'est ça vraiment l'idée principale de ce passage. C'est Dieu seul, révélé en Christ, qui peut combler le vide existentiel de notre vie. Ou autrement dit, et c'est ce qu'on va voir maintenant, c'est qu'en abandonnant les idoles de notre cœur pour nous tourner, adorer le seul vrai Dieu, que nous pouvons trouver la satisfaction profonde et la vie abondante, la vie à l'infini que nous désirons tous, en fait. Ok. Deux choses, deux éléments pour recevoir cette vie. Admettre toute la vérité, adorer celui que Dieu a envoyé. D'accord? Tout d'abord, admettre. Il y a une chose qui devrait nous frapper dans ce passage, c'est que cette femme samaritaine, elle vient seule pour puiser, et elle vient à midi. Seule et à midi, alors qu'on sait que les femmes du Proche-Orient ancien, généralement, venaient en groupe. Pour puiser, pour s'entraider, et soit plus tôt dans la journée, soit plus tard, mais pas au moment où le soleil tapait le plus fort. Et donc, sans même qu'il y ait une parole qui soit échangée ici entre Jésus et la Samaritaine, il y a déjà une... on voit bien qu'il y a déjà un mal-être. Elle est peut-être marginalisée, mise de côté par sa communauté, ou peut-être qu'elle s'isole elle-même par honte, par crainte, peut-être. Et Jésus, lui, il vient, et avec beaucoup de douceur, mais aussi de fermeté, il met le doigt sur le problème. On le voit au verset 16. Au verset 16, Jésus lui dit « Va, appelle ton mari et reviens ici. » La femme répondit « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit « Tu as bien fait de dire « Je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai ou en cela, tu as dit la vérité. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. » Prophète pourquoi ? Parce qu'elle le dit plus tard au verset 29, lorsqu'elle va vers les autres, elle dit que Jésus lui a dit tout ce qu'elle a fait. Elle dit « Venez voir, au verset 29, un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Christ ?» Maintenant, deux questions à se poser par rapport à ces versets-là. Première question, est-ce que vraiment cette femme avait dit la vérité ? C'est ce que Jésus dit au verset 18, il dit « En cela, tu as dit vrai, tu as dit la vérité. » Est-ce que vraiment cette femme a dit la vérité ? Pas vraiment. Elle n'a pas menti, c'est vrai, mais est-ce qu'elle a tout dit ? Non, elle a dit une partie de la vérité peut-être, mais elle n'a pas dit toute la vérité. C'est Jésus qui a dû l'amener à admettre toute la vérité. Deuxième question, pourquoi ? Est-ce que Jésus lui dit toute la vérité ? Pourquoi est-ce que Jésus lui dit tout ce qu'elle a fait ? Est-ce que c'est juste pour étaler sa vie comme ça au regard de tous ? Pourquoi ? Et je crois que la réponse à cette question, elle est vraiment importante pour nous tous. La raison, c'est qu'il y a un obstacle qui nous empêche tous d'entendre les paroles de Jésus quand il nous offre cette eau vive. Et cet obstacle... c'est notre incapacité, peut-être notre refus de reconnaître, d'avouer la soif existentielle qui est la nôtre. Ok, je m'explique. On a tous, n'est-ce pas, des choses vers lesquelles on se tourne pour combler notre vide intérieur. Cette femme samaritaine, c'était quoi ? Les relations amoureuses, les aventures sexuelles. Mais ça peut être des tas d'autres choses, n'est-ce pas ? Ça peut être les biens matériels qu'on va s'amasser pour s'assurer une certaine sécurité, la beauté, l'apparence, parce qu'on recherche notre identité dans le regard des autres. Et là, je parle d'apparence physique, mais ça peut être de manière générale, comment est-ce qu'on apparaît aux autres, l'apparence de piété, peut-être, pour nous qui sommes chrétiens. Le pouvoir, parce qu'on cherche à assouvir notre soif de reconnaissance auprès de nos collègues, nos proches. Le succès, que ce soit professionnel, familial, affectif, etc. Un écrivain américain très connu qui s'appelle David Foster Wallace, qui était un des plus doués et plus renommés de sa génération, il est mort récemment, dépressif, il s'est suicidé à l'âge de 46 ans, en 2008, je crois. Et il n'est pas du tout chrétien, mais il a dit quelque chose par rapport à ces questions-là. Quelques semaines avant sa mort, il a donné un dernier discours dans une université. Et voilà ce qu'il a dit aux étudiants. Écoutez bien, c'est très frappant de la part de quelqu'un qui n'est pas chrétien du tout. Il dit « Tout le monde adore quelque chose. Tout ce que nous choisissons, c'est l'objet de notre adoration. Et la vraie bonne raison de choisir... mettons un Dieu à adorer, c'est qu'à peu près tout ce que vous pourriez adorer d'autre vous dévorera vivant. » Et il donne quelques exemples pour expliquer ce qu'il veut dire, d'accord ? Je vous donne ces exemples. Si vous adorez votre corps, votre beauté, votre capacité de séduction, vous vous sentirez toujours laid. Et lorsque le temps et l'âge commenceront à se faire sentir, vous mourrez un million de fois avant que vos proches ne vous mettent finalement en terre. Adorez le pouvoir, et vous finirez par vous sentir faible et apeuré. Vous aurez besoin d'encore plus de pouvoir sur les autres pour devenir insensible à vos peurs. Adorez votre intellect, considérez-vous comme intelligent, et vous finirez par vous sentir stupide dans la peau d'un imposteur toujours sur le point d'être découvert. Etc., etc., etc. Mais voilà comment il conclut. Il dit, le piège avec ces formes d'adoration, c'est qu'elles sont inconscientes. Ce sont nos réglages par défaut. Vous voyez ce qu'il est en train de dire ? C'est ça nos paramètres par défaut. Remplir notre vie de substituts, de toutes sortes, plutôt que d'adorer le Créateur. Mais le problème avec tous ces substituts, et c'est ça qu'il est en train d'essayer de nous dire avec cette citation que je vous donne, le grand problème, c'est que ces substituts ne peuvent jamais apporter la satisfaction espérée. Pourquoi ? C'est pour une raison très simple. Parce que le temps passe. Parce que le temps passe. Les sentiments passent et les couples, les relations se brisent. Mon conjoint ne m'a pas apporté la satisfaction que j'espérais et donc le couple se sépare. Les biens matériels se perdent et comme je mettais ma sécurité dans ces biens-là, ma sécurité s'envole. La beauté s'efface, l'apparence peut-être de piété tombe, et je vois plus l'envie ou l'admiration dans le regard des autres qui me donnait un sentiment d'identité, d'approbation des autres. Le succès se transforme en échec très rapidement, et on est dévasté, n'est-ce pas, quand ça nous arrive, parce que c'est souvent par nos succès qu'on cherche à obtenir l'approbation des autres. Je vous donne un exemple personnel, parce que ça me permettra peut-être de devenir un peu plus pratique. Mais pensez à quelque chose pour vous. Je fais de la traduction pour un éditeur, et j'ai eu beaucoup de remarques positives de mon éditeur pour mes traductions. Et puis il y a une semaine, il m'a envoyé une critique très, très directe, en me disant que c'était vraiment mauvais ce que je venais de lui envoyer. Et tout d'un coup, alors bon, dévasté, c'est peut-être un terme un peu fort, mais je me suis rendu compte à quel point j'attachais de l'importance en fait à ce qu'il pensait de la qualité de mon travail et de mon succès dans ce domaine-là. Et voilà, c'était une petite chose, mais ça m'a montré à quel point on peut être vraiment, on peut mettre toute notre identité dans l'approbation que les autres montrent envers la qualité de notre travail, notre personnalité, notre apparence, quoi que ce soit. Vous pouvez penser un exemple pour vous. Mais vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que même la personne qui a réalisé tous ses rêves, et il y en a des gens comme ça, peut-être des hommes politiques, des célébrités, des sportifs de haut niveau, même ces gens-là, ils ont toujours le même mal-être intérieur, le même vide. Pourquoi ? Parce que la personne qui a réalisé tous ses rêves, elle a peur de se réveiller. N'est-ce pas ? Elle a peur de tout perdre, elle a peur de se réveiller. Et vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais je pense que c'est peut-être la raison pour laquelle cette femme ne s'est pas mariée avec le sixième homme. Hein ? Elle a eu 5 maris, mais le sixième, elle ne s'est pas mariée. Parce que, je ne sais pas, peut-être qu'elle cherche à se protéger, on n'en sait rien, mais elle est peut-être d'une part toujours avide d'obtenir la satisfaction par ses relations amoureuses, mais d'autre part, elle est juste désabusée. Elle sait que de toute façon ça ne va pas lui apporter la satisfaction qu'elle recherche et plutôt que d'être blessée à nouveau, elle cherche à se protéger de cette manière-là. C'est une interprétation, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Mais je crois que c'est vraiment là que Jésus veut l'amener. Il veut amener la Samaritaine à voir que son moi est devenu un fardeau pour elle. Pour reprendre les mots du prophète Jérémie que j'ai lu tout à l'heure, qu'elle est une citerne crevassée qui laisse passer l'eau. Elle a beau remplir et remplir encore sa vie de toutes sortes de choses, elle reste désespérément vide. Un trou noir qui engloutit tout sans jamais être plein. Et si c'était vrai pour cette femme à cette époque-là, c'est d'autant plus vrai pour nous aujourd'hui dans la société qui est la nôtre. Un sociologue français, là encore non chrétien, qui s'appelle Vincent de Goljac, explique que le développement de l'individualisme dans notre société, ça exacerbe encore plus cette soif existentielle qui est la nôtre, C'est très intéressant. Je vous lis, il est, là nouveau, il est encore, il est non chrétien. Écoutez ce qu'il dit. Le développement de l'individualisme, facteur d'isolement, pousse à considérer le moi comme un bien à faire fructifier, un capital dont l'individu est seul responsable. D'où l'obligation permanente d'être soi-même, de se réaliser sur tous les plans, professionnel, personnel, affectif. Et moi, quand j'entends ça, je pense particulièrement aux femmes, parce que c'est encore plus vrai pour les femmes qui doivent se réaliser sur tous les plans, professionnel, personnel, affectif, maternel, tout ce que vous voulez. Bref, voilà comment est-ce qu'il termine, Vincent de Gaulle-Jacques. Il dit, écoutez, c'est vraiment intéressant. Il dit, notre moi est devenu un fardeau pour chacun de nous. Notre moi est devenu un fardeau pour chacun de nous. Parce qu'il faut lui donner un sens. Parce qu'il faut le nourrir. Parce qu'il faut le présenter. Parce qu'il faut se réaliser. Je m'excuse, c'était un très long détour pour répondre à une question simple que j'avais posée au début. Je ne sais pas si vous vous rappelez la question que j'ai posée au début. C'était pourquoi est-ce que Jésus dit la vérité à cette femme? Pourquoi est-ce qu'il lui a dit tout ce qu'elle a fait? Et maintenant, on a la réponse, n'est-ce pas? C'est que avant de pouvoir entendre les paroles de Jésus qui lui offrent une eau vive pour satisfaire sa soif intérieure, avant d'entendre les paroles de Jésus, il nous faut d'abord admettre toute la vérité. Admettre toute la vérité. Est-ce que vous êtes prêts à admettre toute la vérité vous concernant les substituts, les idoles que vous vous fabriquez quotidiennement? Est-ce que lorsque vous regardez aux jours qui se sont écoulés, vous êtes prêts à admettre, comme j'essaie de le faire, que votre moi est devenu un fardeau pour vous? C'était le premier point. Admettre toute la vérité. Et juste avant de passer au point suivant, j'aimerais attirer votre attention sur un détail. Combien cette femme a-t-elle eu d'hommes dans sa vie? Un peu de maths. En tout. Il y a eu les cinq premiers, six en tout, c'est ça. Il y a eu six hommes dans sa vie. Et ça veut dire que Jésus, lui, se présente comme le septième sur la liste. Le septième. Et c'est très intéressant si vous regardez le passage qui est juste avant le nôtre, en Jean 3, verset 28. Jean 3, verset 28, c'est le témoignage de Jean-Baptiste concernant Jésus. Et voilà ce qu'il dit, Jean 3, verset 28. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit moi, c'est-à-dire moi, Jean-Baptiste, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui qui a l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, c'est-à-dire moi, Jean-Baptiste, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est complète. Jésus est l'époux, le septième homme sur la liste de cette femme. Alors, on est d'accord, c'est pas le Da Vinci Code, hein, c'est pas la femme. C'est pas la femme cachée de Jésus, mais c'est, je prends ça dans le sens d'une image, parce que le chiffre 7 dans la Bible, c'est le chiffre toujours de la perfection, hein, de la plénitude. Pensez aux 7 jours de la création, au 7e jour de la création, lorsque il nous est dit que Dieu s'est reposé de tout son ouvrage. Vous pensez aux 7 paroles de Christ en croix pour dire que tout est accompli. Et Christ, l'époux, vient ici comme le septième homme sur la liste des relations brisées de cette femme, comme pour dire que cette soif intérieure, cette insatisfaction permanente, ce vide qu'elle ressent, c'est de sa plénitude à lui, à Jésus seul, que ce vide peut être rempli. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc c'est mon deuxième point. Adorer celui que Dieu a envoyé. Adorer. Vous avez peut-être remarqué tout à l'heure dans la lecture que la femme samaritaine, elle est pas très à l'aise quand même quand Jésus lui dit tout ce qu'elle a fait. Hein, qui le serait? J'aimerais pas qu'on me dise tout ce que j'ai fait non plus. Et du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle change de sujet. Hein, en tout cas, elle croit qu'elle change de sujet. Verset 19. Elle dit, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Et du coup, elle change de sujet, elle lui pose une question. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites-vous, les Juifs, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Et là, il se passe quelque chose de très surprenant. Jésus joue le jeu, n'est-ce pas? Il lui dit pas, non, non, change pas de sujet, on était sur autre chose, on parlait de tes maris. Non, il accepte de répondre à sa question. Pourquoi? Je pense que la raison, c'est que la femme, sans le vouloir, vient exactement sur le sujet que Jésus voulait aborder avec elle. Et c'est le sujet de l'adoration. L'adoration. Et très rapidement, Jésus lui dit que c'est pas le « où » de l'adoration qui compte, sur le mont Gérizim à Jérusalem, ni le « comment » de l'adoration qui compte, les mains levées en dansant, c'est pas son propos ici. C'est ni le « où » ni le « comment », mais le « qui » de l'adoration qui compte. Au verset 23. Verset 23, Jésus dit « Mais l'heure vient, et c'est maintenant, parce que Jésus est venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. » Et je veux juste vous dire que cette expression « en esprit et en vérité », ce n'est pas tout à fait une bonne traduction. Il faudrait plutôt dire « en esprit et vérité ». Si vous voulez, ce n'est pas deux caractéristiques séparables, mais c'est une expression qui décrit la nature de l'adoration que Dieu demande de nous, que Dieu requiert de la part de ses créatures. Et l'adoration en esprit et vérité, elle est centrée sur Dieu, d'une part, elle est rendue possible par l'esprit, et elle est dans la, on peut dire, dans la connaissance personnelle et la conformité à la vérité faite chair, c'est-à-dire dans la connaissance personnelle et la conformité à Jésus-Christ. C'est ça que ça veut dire, l'adoration en esprit et vérité. Non, je vous ai dit que Jésus voulait aborder la question de l'adoration à ce moment-là dans la discussion. Pourquoi? Et franchement, je crois que c'est la question la plus importante qu'on peut se poser ce matin. Pourquoi est-ce que Jésus veut aborder la question de l'adoration à ce moment-là précis dans la discussion? Je crois que c'est vraiment capital. Et je crois que c'est parce que le seul moyen de chasser les idoles de notre cœur, c'est d'adorer quelque chose de plus glorieux encore. Si vous reprenez l'illustration que je vous ai donnée avant de l'enfant qui joue avec ses triangles, et ses ronds et ses carrés, si l'enfant est vraiment passionné par son jeu, vous savez qu'il n'y a qu'un seul moyen de le distraire pour qu'il arrête d'y jouer. C'est quoi? C'est de trouver un jeu encore plus passionnant, n'est-ce pas? Les enfants sont comme ça, il faut leur trouver des choses plus intéressantes encore pour attirer leur attention. Et on n'est pas différent. Si rien de plus aimable, de plus glorieux, de plus beau ne prend la place de ces idoles dans notre cœur, il n'y a aucune chance qu'on puisse s'en débarrasser. Et je crois que c'est vraiment extrêmement important de comprendre ça, surtout pour nous qui sommes chrétiens, dans notre lutte contre le péché, dans notre désir de nous débarrasser de ces substituts qui reprennent encore et toujours la place de Dieu dans notre cœur, le seul moyen de s'en débarrasser, c'est d'adorer quelque chose de plus glorieux encore, d'adorer celui qui nous a créés pour l'adorer et qui est seul digne de cette adoration. Et en l'adorant lui, de retrouver la place qui est la nôtre, et notre identité et notre sécurité en lui. Un auteur chrétien qui s'appelle C.S. Lewis a très bien montré ça. Il a très bien montré qu'on renonce toujours à un bien quelconque au profit d'un bien supérieur. Okay? Et ce qu'il essaie de montrer, c'est qu'en fait, Dieu ne juge pas nos désirs de popularité, nos désirs de succès, nos désirs de quoi que ce soit, tout ce que vous voulez. Il ne juge pas ces désirs-là trop ambitieux ou trop audacieux, mais trop modestes, en fait. Voilà ce qu'il écrit, écoutez bien. Il dit « Nous sommes des créatures qui se contentent du médiocre, qui courent après la boisson, le sexe et la gloriole, alors que des joies infiniment plus élevées leur sont offertes. » C'est pas que ces choses sont mauvaises, mais si elles sont pas à leur place, c'est se contenter du médiocre. Et puis il prend une illustration, écoutez bien. Nous ressemblons à un enfant ignorant qui persiste à vouloir trouver son bonheur en faisant des pâtés de boue au bord d'une flaque d'eau, plutôt qu'en faisant des châteaux de sable au bord de la mer, simplement parce qu'il n'a pas la moindre idée de ce qu'est une plage. Et voilà comment il termine. Nous nous satisfaisons à bon compte, trop facilement. Vous voyez ce qu'il dit? On cherche notre satisfaction dans des plaisirs, des biens, des joies qui sont limitées dans le temps, dans l'espace, des choses qui sont éphémères et qui vont nous décevoir, forcément, de par leur nature, de par ce qu'elles sont. Au lieu de trouver notre satisfaction dans le seul qui peut réellement combler toute notre satisfaction, parce qu'il est le Dieu éternel, infini, sur lequel le temps, l'espace n'ont aucune prise. Admettre toute la vérité, adorer celui que Dieu a envoyé, Jésus-Christ. Parce que c'est quand on le contemple, lui, que tous les autres substituts qu'on peut s'inventer perdent de leur attrait, comme une flaque d'eau à côté de l'océan ressemble à une flaque d'eau. C'est quand on contemple Jésus-Christ, lui qui s'est dépouillé de sa réputation, de sa gloire, lui qui n'a pas fait de son moi un fardeau, mais qui est venu dans notre monde, lui qui pourtant tient la terre, les océans dans ses mains, il s'est abaissé jusqu'à venir au bord d'un puits pour dire j'ai soif, j'ai soif. Et ce n'est pas la dernière fois dans l'évangile de Jean que Jésus dit « j'ai soif ». Vous vous rappelez, sur la croix, juste avant de mourir, Jésus dit encore à ceux qui l'ont cloué « j'ai soif, j'ai soif ». Et il y a plus, je pense, qu'une simple sensation physique. C'est la soif, le vide qu'il ressent, la perte de sa relation avec son Père à cause de nos péchés, parce qu'il s'en est chargé, de nos péchés, de nos fardeaux, de notre honte. C'est parce qu'il a eu soif que notre soif à nous peut être pleinement étanchée, satisfaite. C'est parce qu'il est mort que nous pouvons recevoir cette vie pleine, abondante, connaître Dieu, être connu de lui tel que nous sommes. C'est parce qu'il a souffert ces choses-là, c'est parce qu'il a été à la croix que l'offre qui nous est faite en Ésaïe 55, que Jérôme nous a lu tout à l'heure, est gratuite. Elle est là à recevoir pour tous ceux qui viennent à Christ. Et je vous relis ces versets. « Ô vous tous qui avez soif, venez vers les eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. » J'aimerais vraiment vous supplier de venir encore à Christ. Étanchez votre soif. Parce qu'il a dit « j'ai soif » pour que nous n'ayons plus à avoir soif. J'aimerais conclure juste en attirant votre attention sur ce qui est un détail, mais qui je pense est un détail significatif. Cette histoire, ce n'est pas la première dans la Bible où deux personnes se rencontrent près d'un puits. Si vous avez lu un peu l'Ancien Testament, vous savez que ça arrive souvent, des personnes qui... Enfin, on assiste souvent à des rencontres autour d'un puits. Et l'une de ces rencontres, elle nous est rapportée en Genèse 24. Elle a lieu lorsque le serviteur d'Abraham est envoyé pour trouver une femme pour Isaac, son fils. Et il arrive à un puits et il fait la rencontre de Rebecca. Il lui demande à boire et Rebecca lui donne à boire. Et dans la discussion, d'un coup, il s'avère que Rebecca fait en fait partie du clan d'Abraham. Et qu'elle est du coup la femme idéale pour Isaac. Et lorsque sa famille demande à Rebecca si elle veut partir, suivre cet inconnu pour aller se marier avec un autre inconnu, il lui demande « veux-tu suivre cet homme ?» Est-ce que vous savez ce qu'elle a répondu? Ça va peut-être vous décevoir, c'est tout simple. Elle a répondu « oui ».« Veux-tu suivre cet homme ?» Oui. Et dans le texte qui précède le nôtre, dans l'évangile de Jean, on l'a vu, Jean-Baptiste nous présente Jésus comme l'époux. Et dans le prolongement, on vient de le voir, Jésus conduit cette femme, une épouse malheureuse, il l'inclut Elle qui était marginalisée, qui était exclue, il l'inclut dans son peuple, l'Église qui est son épouse. Là, nouveau, je suis pas en train de. C'est une image, hein. C'est une histoire belle et vraie d'une femme qui est réellement venue à Christ par la foi, mais c'est aussi l'image, la métaphore d'une réalité qui va au-delà, qui dépasse cela et qui nous amène au-delà, aux noces éternelles de Christ et de son Église. Et c'est le tableau final, n'est-ce pas? C'est le dernier tableau que nous dresse la Bible de l'épouse, de l'Église, pardon, parée comme une épouse qui descend sur terre, sur cette terre renouvelée, devant le trône de Jésus-Christ. Et voilà ce qui nous est dit dans le livre de l'Apocalypse, c'est le dernier tableau, et je vous le lis simplement. Celui qui est assis sur le trône, c'est-à-dire Jésus, celui qui est assis sur le trône les abritera sous sa tente, ils n'auront plus soif, le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur brûlante. En effet, l'agneau qui est au milieu du trône les fera paître, et il les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Voilà la perspective éternelle. Et la question est simple du coup, comme elle était simple pour Rebecca. Veux-tu suivre cet homme? Veux-tu suivre cet homme? Si oui, alors admets toute la vérité et adore celui que Dieu a envoyé. Je vous invite à ce qu'on prenne quelques minutes de prière, si peut-être deux ou trois veulent nous conduire dans la prière, je terminerai et on chantera encore un chant avant de conclure le culte. Prions.